En tout cas, c'est avec une joie vraiment sincère et véritable que je m'associe ce matin à cette commémoration du père Afanassiev. Et je vais surtout évoquer l'influence qu'il a eue sur Vatican II. Je le ferai sans aucune prétention scientifique, car je n'ai pas été en mesure, il est vrai que c'est de ma faute, je me suis pris trop tard pour demander au père Job de m'introduire aux archives ici, aux archives personnelles du père Nicolas ou aux archives de la faculté. En effet, un point aurait été intéressant. Au-delà des sources imprimées que nous avons et qui prouvent l'influence du père Afanassiev à Vatican II, je crois que les archives pourraient nous éclairer sur les circonstances dans lesquelles le père Nicolas est devenu observateur à Vatican II et aussi sur la façon dont il a vécu cette participation à Vatican II. Et j'ai été extrêmement touché de voir que le père Ozouline serait un des plus intéressés également à quelques recherches à ce sujet. Et c'est pourquoi je crois pouvoir suggérer à l'un des étudiants ici présents de prendre ce sujet comme un thème de recherche. Ça vaudrait la peine, me semble-t-il. En effet, Saint-Serge a répondu très largement à l'invitation venue du secrétariat pour l'unité des chrétiens de venir à Rome dans un contexte spirituel qui a été parfaitement décrit et non sans émotion par mon maître le père Congard. Voici ce qu'il en a écrit, je cite. « Nous avons été frappés dès le début, et même les premières fois bouleversés, de voir comment les observateurs des autres églises chrétiennes entrait dans la trame des opérations conciliaires. Quand, après la concélébration de la messe, la séance de discussion devait commencer, le secrétaire général enjoignait à toutes les personnes étrangères au concile de s'en aller. Il ajoutait, peuvent rester les pères conciliaires, les experts, les personnes de service et les observateurs. De fait, ils assistaient à tout. Ils avaient exactement les mêmes moyens de tout suivre que les évêques. » Fin de la citation. Le même père Congard tirait de cette hospitalité offerte la conclusion suivante. En partie grâce à eux, aux observateurs, le concile se sera vraiment tenu sous le regard des autres, dont on n'a jamais perdu de vue l'existence et les questions à l'horizon de nos problèmes. » Fin de la citation. Qu'est-ce que cela représentait chrétiennement et humainement? Bien, de toute évidence, c'était un grand gain. Un sociologue américain qui s'appelle Caporale a pu constater au terme d'une enquête qu'il a faite auprès des pères conciliaires et des observateurs ceci, guillemets, « À l'exception d'un tout petit nombre, tous les évêques ont reconnu qui n'avait jamais rencontré un seul des observateurs. » Ce n'est évidemment pas pour surprendre, mais un autre constat mérite bien plus d'attention. L'immense majorité des évêques italiens, espagnols, portugais, irlandais et aussi sud-américains n'avaient jamais rencontré un orthodoxe de leur vie. Et pas beaucoup plus de protestants. Ceci est également vrai, symétriquement, des observateurs. L'un d'entre eux, une personnalité mondialement connue, avoue pendant la troisième session, je le cite, « Je dois avoir connu au plus 10 évêques avant le concile, alors qu'actuellement, j'en connais au moins une cinquantaine. » Vous comprenez la réflexion du sociologue américain? Avec cet enthousiasme dont cette nation est capable, il, bien souvent, il note que, je cite, « leur présence et les contacts officieux et personnels entre eux et les évêques ont fait franchir le pas le plus gigantesque vers l'œcuménisme depuis le concile de Florence. » Une confidence recueillie d'un autre observateur, resté anonyme, permet de reconnaître quelques vraisemblances à ce propos. Voici ce qu'il dit. Chaque mardi, donc l'ensemble des observateurs, ils étaient 70 à 80, une centaine à la fin, Chaque mardi, nous invitions quelques experts à venir faire un exposé sur un sujet qui nous intéressait et à répondre à nos questions. Ce fut très positif. D'autre part, certaines des suggestions que nous fîmes à ces réunions allèrent jusqu'au l'aula consulière. Vous voyez, je viens d'évoquer le processus auquel a participé le père Afanassiev. Mais je crois qu'on ne saurait rendre hommage au père Afanassiev comme si c'était une personne isolée, ni en faire le représentant de Saint-Serge à Vatican II. On n'exagère pas, en effet, en disant que c'est Saint-Serge, en tant que tel, qui a exercé une influence à Vatican II. Les plus anciens parmi vous me pardonneront de le rappeler aux plus jeunes. À la deuxième et la troisième session, Saint-Serge était représenté par l'évêque Cassien, comme le père Ouzouline l'a déjà dit à plusieurs reprises. Il avait pour compagnon le père Alexandre Schmemann, un ancien enseignant ici, et alors à la faculté de Saint-Vladimir à New York. Et à la quatrième session, le père Nicolas avait deux acolytes de grande importance, le père Miazev et le professeur Paul Evdokimov. Maintenant, je pense que vous comprenez pourquoi je regrette bien n'avoir pas pu accéder aux archives de la faculté de Saint-Serge. En effet, à l'époque, c'était sûrement faire preuve de magnanimité chrétienne que d'accepter l'invitation de l'Église catholique. Surtout, en un moment où les différentes consultations pan-orthodoxes avaient refusé d'envoyer des observateurs à un concile dont elles ne pouvaient pas encore imaginer le déroulement. Il est probable qu'ici, à Saint-Serge, une telle décision n'a pu être prise qu'après de mûres délibérations. Il serait donc instructif de prendre connaissance de ces délibérations encore aujourd'hui. Les archives ont dû conserver des traces des délibérations, tout comme elles conservent probablement encore des traces des comptes rendus faits à leur retour par le recteur et par les différents professeurs. J'arrête ici cette trop longue introduction, non sans avoir renouvelé mon souhait de voir l'un des étudiants ou des jeunes enseignants actuels se livrer à ce travail qui participerait, je crois, à l'illustration de la maison à laquelle ils ont le grand privilège d'appartenir. Cette introduction aura sans doute pourtant un petit mérite, celui de ne pas isoler le père Nicolas de sa faculté. En proposant une approche de son influence personnelle à Vatican II, je ne veux pas passer cela sous silence. Certes, sa pensée était discutée alors, comme elle l'est aujourd'hui, nous venons d'entendre ce matin, mais ce n'était nullement un franc-tireur, comme le montre son ouvrage, plusieurs fois cité, « La primauté de Pierre dans l'Église orthodoxe », qui a été élaboré par une équipe composée de lui-même et les professeurs Coulomzin, Schmemann et Miendorf, juste paru la veille de Vatican II. Type de travail exemplaire d'une faculté où les professeurs se mettent à un travail commun. J'en viens sans plus tarder donc à mon sujet qui a pour ambition de vous montrer comment l'ecclésiologie eucharistique, je me limiterai à cela, que Vatican II a su mettre en valeur, est en dette à l'égard de la pensée du père Afanassiev. L'ecclésiologie eucharistique, bien entendu, appartient à l'ancienne tradition catholique. Bien avant Vatican II, à Rome même, par exemple, le père Hertling, un jésuite, soulevait les questions essentielles de cette ecclésiologie dès 1941 dans sa monographie au titre significatif « Communio un primat ». En 1943, à Lyon, avec parution ici à Paris, de Lubac publiait son ouvrage majeur « Corpus Mysticum, l'Eucharistie et l'Église au Moyen-Âge ». De telles publications en elles-mêmes expliquent à la fois l'intérêt que Vatican II a prêté à la relation entre l'Eucharistie et l'Église, et dans ce cadre, elles expliquent aussi l'attention assez surprenante que le Concile a accordée à la réflexion théologique du père Afanassiev. Maintenant que reprend le dialogue officiel entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe dans son ensemble, ce fait mérite sûrement l'attention, c'est-à-dire un Concile général de l'Église catholique a légitimé et validé une ecclésiologie eucharistique en se mettant explicitement à l'écoute d'Afanassiev, et ceci dès le début de la rédaction de la Constitution dogmatique sur l'Église. Je voudrais en restituer avec vous les principales étapes. Je vais le faire en prenant les actes synodales, Je m'explique parce que c'est du latin et vous êtes des Grecs. Les actes synodales sont des archives absolument importantes, désormais imprimées, qui doivent être dans votre bibliothèque ou devraient y être, je dis ça pour le bibliothécaire. En effet, on ne peut interpréter aucun texte de Vatican II si on ne se réfère aux actas. Les actas sont l'équivalent de ce que sont les minutes dans un parlement, c'est-à-dire on sait exactement ce que le texte veut dire, c'est les formulations refusées, les formulations acceptées, et pourquoi elles ont été refusées, pourquoi acceptées, quelles sont les évolutions des textes, c'est-à-dire vous ne pouvez pas lire Vatican II en l'ouvrant et en croyant le comprendre. C'est une illusion scientifique. En revanche, les actes synodales sont nécessaires. Donc je vais parcourir à vous les actes synodales. Dès 1962, les rédacteurs de la première version du schéma sur l'Église en 62 avalisent une ecclésiologie eucharistique qui est déjà consciemment élaborée et ils empruntent directement l'expression Afanassiev qu'ils citent nommément. Ils la présentent comme représentative, à tort ou à raison, on discutera, c'est ce que Vatican II fait. Ils la présentent comme représentative de l'ecclésiologie orthodoxe. Ils écrivent que, guillemets, la communion eucharistique est le signe parfait de l'unité de toute l'Église. Ils sont justifiés naturellement en appelant d'abord à saint Paul, à l'épître aux Corinthiens, qui est le plus ancien témoignage chrétien, comme vous le savez, sur le repas du Seigneur, et sur la corrélation entre le corps du Christ et le corps ecclésial qui y est présente. Et immédiatement après, les rédacteurs des 62 donnent comme première raison l'appui sur la tradition orthodoxe. Saint Paul est directement la tradition orthodoxe, qu'ils estiment illustrée par le père Afanassiev. Et je vous cite ici des actas, je commence avec les guillemets, c'est un peu long. C'est comme ça qu'il faut faire et penser, disent-ils. Pourquoi ? Guillemets, à cause des orthodoxes. Pour ceux-ci, l'Eucharistie est en effet au centre de toute leur vie religieuse. Aujourd'hui, délaissant habituellement l'opinion selon laquelle l'Église aurait une structure démocratique, entre parenthèses, il y a le mot russe sobornos, les théologiens orthodoxes mettent avant tout l'accent sur ces éléments catholiques, et en premier lieu sur la doctrine de l'Eucharistie comme koinonia. À la suite du professeur Afanassiev, de nombreux théologiens orthodoxes opposent l'ecclésiologie universaliste, c'est-à-dire une ecclésiologie de l'Église une et universelle, organisée de façon hiérarchique et juridiquement comme dans l'Église catholique, et l'ecclésiologie eucharistique, c'est-à-dire l'ecclésiologie des églises particulières, qui ne connaissent pas de subordination autoritaire, de droit divin, comme c'est le cas dans l'Église orthodoxe. C'est pourquoi, donc voilà la motivation et leur décision d'élaborer l'ecclésiologie eucharistique, c'est pourquoi il a paru très utile d'indiquer comment l'Église catholique aussi prend naissance, incipiat est le mot latin, à partir d'une ecclésiologie eucharistique qui est en même temps universel, confère Afanassiev, Kolomzin, Meyendorf, Schmemann, la primauté de Pierre dans l'Église orthodoxe, Neuchâtel, 1960, fin de la citation de 62, mais pas tout à fait la fin. Il renvoie encore à des amorces d'ecclésiologie eucharistique dans d'autres églises, et ils expriment au terme le regret suivant. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quelle est leur intention? Ils disent, tous les catholiques ne voit pas clairement la relation essentielle existant entre la communion ecclésiale et la communion eucharistique, si bien qu'il s'ensuit des opinions difficiles à approuver, tant sur l'unité et l'unicité de l'Église que sur l'unité et l'unicité de la liturgie. 1962. 1963. Cette même ecclésiologie eucharistique est à nouveau proposée dans le numéro 20 du même schéma avec une nouvelle référence à Afanassiev. Je cite, l'évêque est, c'est une citation de le collège byzantin pour l'ordination des évêques, qui est citée à cet endroit, l'évêque est l'économe de la grâce du suprême sacerdoce, surtout dans l'Eucharistie, par laquelle l'Église vit et croit continuellement, c'est-à-dire prend son essor. Il est également vrai que l'Eucharistie fait l'Église, comme l'explique saint Augustin, ce qui est développé en citant saint Jérôme, saint Léon, et par un renvoi à la fois à saint Thomas d'Aquin et au cardinal Franzelin, qui est contemporain de Vatican I. Et qu'est-ce qu'on ajoute comme autorité en 63, guillemets, sur le lien entre ecclésiologie et Eucharistie, voire Nicolas Afanassiev, l'Église qui préside dans l'amour, pages 8 à 14. Fin de la citation. 1964. Enfin, le texte définitif soumis au vote des pairs, qui est devenu actuellement le numéro 26 de la Constitution, Dogmatic Lumen Gentium, renvoie toujours à Afanassiev en approfondissant les affirmations qui soutiennent l'ecclésiologie eucharistique. Et je cite encore longuement, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé réellement à Vatican II, « Cette Église du Christ est vraiment présente en toutes les légitimes assemblées locales, congregationibus localibus, de fidèles, qui unissent à leur pasteur, c'est pas le pasteur qui est au début, mais les congrégations locales, unissent à leur pasteur, reçoivent dans le Nouveau Testament, elles aussi, le nom d'Église, ce qui est illustré par une oraison de la liturgie mozarabe. En elle, le mystère de la scène du Seigneur est célébré pour que par le moyen de la chair et du sang du Seigneur se resserre en un seul corps toute la fraternité. Et par le recours à Ignace d'Antioche, au Smyrniote 8.1, chaque fois que la communauté de l'autel se réalise sous la présidence de l'évêque, se manifeste le symbole de cette charité et de cette unité du corps mystique sans laquelle le salut n'est pas possible. Et aucun doute n'est laissé sur le fait que l'Église locale n'est pas une partie ou n'est pas une succursale de l'Église. Ces deux idées sont réfutées. Que l'Église locale puisse être une partie de l'Église ou une succursale de l'Église. Car le texte de Lumen Gentium continue, c'est le texte voté, donc, continue comme suit, guillemets, « Dans ces communautés, si petites et si pauvres qu'elles puissent être, souvent, ou même dispersées, le Christ est présent par la vertu de ce qui constitue l'Église, une sainte catholique et apostolique, car la participation au corps et au sang du Christ n'a pas d'autre effet que de nous transformer en ce que nous recevons. » Ces références à l'ecclésiologie eucharistique d'Afanassiev sont à prendre d'autant plus au sérieux, et c'est une joie pour moi de le dire dans cette salle, qu'il est le seul et unique non-catholique, si je puis dire, à être ainsi cité. Il n'y en a pas d'autre. Et aussi du fait qu'il sera personnellement invité comme observateur tout au cours de la dernière session du Concile. À travers lui, on peut dire que Vatican II s'est voulu à l'écoute et peut-être même à l'école de l'ecclésiologie eucharistique orthodoxe. Je voudrais maintenant réfléchir un peu plus avec vous, de façon un peu plus systématique, ce n'est pas interdit, je pense, sur les convergences à la fois doctrinales et structurelles de Vatican II avec l'ecclésiologie eucharistique développée dans l'Église orthodoxe contemporaine, parce que ceci nous intéresse, nous honorons le père Afanassiev, pas comme un mort, mais comme quelqu'un dont la pensée est vivante, et pour aujourd'hui. Il serait exagéré de dire que Vatican II a canonisé l'ecclésiologie eucharistique d'Afanassiev, qui, au demeurant, ne faisait pas l'unanimité dans son Église. Mais il est certain que des convergences doctrinales et structurelles avec l'ecclésiologie commune à l'Église orthodoxe y sont repérables. Je pense aux formulations doctrinales, c'est-à-dire quels effets ça a produit à l'intérieur de Vatican II. Eh bien, Vatican II désignera l'Eucharistie tantôt comme source et sommet de la vie chrétienne, guillemets, manifestant sous une forme concrète l'unité du peuple de Dieu, que ce très grand sacrement signifie en perfection et réalise admirablement. C'est le numéro 11 de Lumen Gentium. Ou bien encore, tantôt comme source et sommet de toute l'évangélisation, l'assemblée eucharistique étant le centre de la communauté chrétienne. Fin de la citation. Et pour ce qui est de... Ça, c'était un thème cher au père Nicolas, évoqué ce matin avec tremblement par le père Ozoulin. Voici ce que Vatican II en dit. Pour ce qui est de l'Eucharistie célébrée dans les églises orthodoxes, Vatican II rappelle aux catholiques, guillemets, citation commence, avec quel amour les chrétiens orientaux célèbrent la Sainte Liturgie. Surtout l'Eucharistie, source de vie pour l'Église et gage de la gloire céleste. Ajoutant, en citant Saint Jean Chrysostome, guillemets à nouveau, dans ces églises particulières s'édifie et grandit par la célébration de l'Eucharistie la communion entre elles, qui se manifeste surtout par la concélébration. Voilà les formulations doctrinales. Conséquences structurelles en sont tirées également. C'est le cas au plan des rites dans la Constitution sur la liturgie, la fameuse réforme liturgique. Je cite ici encore, guillemets, « Les actions liturgiques ne sont pas des actions privées, mais des célébrations de l'Église. On soulignera donc que la célébration commune doit l'emporter sur la célébration individuelle et quasi privée. Ceci vaut surtout pour la célébration de la messe. » Mais on en tire aussi des conséquences pour l'articulation entre les églises locales et l'église entière. D'une part, le diocèse est systématiquement désigné non comme une partie, mais comme une portion de l'église entière. La différence en latin est extrêmement considérable, et comme en français d'ailleurs. Si le père Boris se propose de me reconduire tout à l'heure dans mon couvent avec une partie de sa voiture, nous ne partirons jamais du parking ici. Vous voyez la différence entre la partie et la portion. La portion, en français, comme en latin, signifie une réalité dont l'essence est entièrement présente en elle-même. Et donc, Vatican II a pris une décision de vocabulaire très précise. Le diocèse est systématiquement désigné non comme une partie, mais qu'une portion de l'Église entière. D'autre part, en cohérence avec cette perception également, Lumen Gentium 23 énonce que, je cite, « C'est dans les églises diocésaines et à partir d'elles, c'est le refus de l'idée de succursale, bien entendu, et l'introduction de l'idée que la communion de l'Église est toujours une communion des églises, communion ecclésiale. C'est dans les églises diocésaines et à partir d'elles qu'existe l'Église catholique, une et unique, in quibus et ex quibus existit una et unica Ecclesia Cattolica. Formulation qui fait droit à un enjeu essentiel de l'ecclésiologie eucharistique, me semble-t-il. Mais on en discutera. Et qui est potentiellement de la plus grande importance le jour maintenant arrivé où l'on s'attelle ensemble pour situer la primauté de Pierre dans la communion des églises en corrélation avec la conciliarité fondamentale de l'Église. Il me semble que c'est le titre même des sessions actuelles de la commission de dialogue. Les élaborations du Père Nicolas remontent maintenant à plus d'un demi-siècle. D'autres théologiens ont pris sa place, le Père Osgoline nous l'a rappelé, et il est impossible de ne pas mentionner le nouveau co-président de cette commission mixte à laquelle je viens de faire allusion, à savoir le métropolite Jean de Pergame. Et je me permets une citation de lui, parue dans l'Osservatore Romano. Le 11 octobre 2005, à Rome, il s'adresse en tant que délégué fraternel du patriarcat œcuménique au synode des évêques auprès du pape, dont le thème est précisément l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église. En cette circonstance, en tout cas solennelle, sinon tout à fait officielle, il décrit cette convergence dans les termes suivants. C'est donc le métropolite Jean qui parle, guillemets. « Nous, orthodoxes, nous sommes profondément heureux du fait que votre synode, lui aussi, considère l'Eucharistie comme la source et le sommet de la vie et de la mission de l'Église. Il est très important que catholiques et orthodoxes puissent l'affirmer d'une même voix. Certains points peuvent, peut-être, encore séparer nos églises. Mais les uns et les autres, nous croyons que l'Eucharistie est au cœur de l'Église. Sur cette base, nous pouvons poursuivre le dialogue théologique officiel entre nos deux églises qui entre maintenant dans une nouvelle phase. L'ecclésiologie eucharistique peut guider nos efforts pour surmonter 1000 ans de séparation. Car il est malheureux de partager la même conviction sur l'importance de l'Eucharistie tout en étant incapable de la partager à la même table. L'ecclésiologie de communion promue par le Concile Vatican II et approfondie par la suite par d'éminents théologiens catholiques, ne peut avoir de sens que si elle dérive de la vie eucharistique de l'Église. L'Eucharistie n'appartient pas seulement au bene esse de l'Église, elle appartient à son essence même. Toute la vie de l'Église, sa parole et sa structure sont eucharistiques en leur essence même. Fin de la citation du métropolite Jean. Selon lui, donc, cette convergence réjouit l'Église orthodoxe. Elle permet de continuer le dialogue officiel. Elle offre une orientation pour surmonter les 1000 ans de séparation. Je ne peux pas avoir d'autre ambition que d'illustrer la justesse de ses propos et, effectivement, du chemin a été fait de part et d'autre depuis 50 ans. Je ne peux pas l'explorer ici, faute de temps. Je mentionnerai simplement les progrès, le père Ouzouline y a fait allusion, c'est-à-dire des disciples, les progrès, c'est en tout cas mon opinion, que le métropolite Jean lui-même a apporté à l'ecclésiologie trop localiste, selon son diagnostic, du père Afanassiev. Je voudrais quand même plaider un peu en faveur du père Afanassiev. Pourquoi ? Parce que je crois qu'à sa décharge, il faut bien comprendre que sa biographie explique, ce mot n'est pas correct de ma part, mais sa biographie colore, si elle n'explique pas, colore très largement les positions qu'il a prises. Je n'en resterai pas là, rassurez-vous, je terminerai sur le travail à la maison que nous, catholiques, nous avons à faire encore. Mais je peux, en tout cas, comprendre pourquoi je me sens aujourd'hui plus proche du métropolite Jean. Je ne veux pas, ici, la pensée du métropolite Jean ne se laisse pas simplifier. Pourtant, ce matin, je simplifierai les raisons pour lesquelles il a cru devoir dépasser l'ecclésiologie du père Nicolas. Aux pages 19 et 20 de Lettre ecclésiale, il prend ses distances par rapport à l'absolutisation, dit-il, de l'axiome d'Afanassiev, selon lequel là où est l'Eucharistie, là se trouve aussi l'Église. Il y voit un risque, celui que chaque Église locale pourrait, indépendamment des autres Églises locales, se considérer comme l'Église, une sainte catholique et apostolique. C'est vrai qu'il y a un localisme, potentiellement, chez le père Nicolas. Mais je crois, et je me permettrai de faire un plaidoyer en ce sens, intéressant de chercher dans sa biographie spirituelle et intellectuelle l'explication de ce fait. Encore jeune étudiant orthodoxe à Odessa, quelle expérience terrible n'a-t-il pas à vivre ? Il voit l'Église d'Ukraine éclater en moins de 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans maximum, en 4 juridictions différentes et concurrentes, face à la déclaration unilatérale d'autocéphalie du métropolite Lykovski, les évêques favorables à Moscou obtiennent l'érection d'une Église ukrainienne autonome au sein du patriarcat, tandis que s'instaure une 3e juridiction, celle de l'Église du Renouveau, un schisme modernisant, je n'insistais pas là-dessus, devant cette honorable assemblée. Hélas, cette première expérience juridictionnelle bien amère se renouvela pour lui dans l'exil. Les 4 principaux évêques avec lesquels, déjà en Ukraine, il était familier, ou avec lesquels il collaborait, ou voire auxquels il avait confié sa direction spirituelle, ces 4 évêques vont s'affronter en 4 juridictions concurrentes, et il arrivera même d'en changer, dans les circonstances particulièrement troublées de l'époque, que je n'ai pas besoin de décrire non plus devant cette assemblée. Comme le savent fort bien et mieux que moi tous ceux qui m'écoutent, le métropolite de Kiev, Antoine Krapovitsky, donc, s'instaura en chef de l'Église russe hors frontières. dénonçant avec vigueur ce qu'il a appelé le sergianisme, qui avait créé les tensions que l'on sait parmi les exilés. Afanassiev préféra rejoindre le métropolite Euloge, qui avait été originellement nommé par le patriarche Tikhon, n'est-ce pas, à la tête de l'exarchat d'Europe occidentale, lorsque ce même Euloge, en désaccord avec les Russes hors frontières, obtint pour la juridiction de Constantinople. J'ai feuilleté en cette occasion les mémoires publiées aux presses de Saint-Serge, qui décrivent bien les déchirements du métropolite jusqu'à la fin de sa vie, parce qu'à la fin de sa vie, il demandera sa réintégration à Moscou. Au demeurant, si je les ai bien lus, la seule trace d'Afanassiev qu'on y trouve est la mention de son nom, sans aucun commentaire, comme détenteur de la charte de droit canonique à Saint-Serge. En revanche, ses mémoires parlent sans trop d'indulgence du père spirituel d'Afanassiev à Odessa, le métropolite Veniamin Fetchenko, lui aussi enseignant à Saint-Serge, et à un moment même inspecteur, je crois. Le premier inspecteur, oui. Et Monseigneur Veniamin, donc, quitta ensuite Monseigneur Euloge pour devenir le représentant du patriarcat de Moscou, d'abord en Europe occidentale, jusqu'en 1933, puis aux États-Unis, entre 1933 et 1947, où il s'opposa à qui ? Au métropolite Antoine. Et pour bien comprendre les réactions, j'essaye de faire ça, pour bien comprendre les réactions ecclésiologiques d'Afanassiev, il faut encore souligner sa proximité avec le métropolite Platon, Rodzevzinski, évêque de sa ville natale, qui en 1922 prit la tête de l'exarchat russe des États-Unis pour le déclarer autonome. Si bien que le patriarcat de Moscou d'un côté, le métropolite Antoine de l'autre, lui opposèrent chacun un évêque concurrent. Certes, l'ecclésiologie eucharistique du père Afanassiev ne s'explique pas, nous sommes entre intellectuels ici, ne s'explique pas par ces vicissitudes ecclésiologiques chaotiques. Mais du moins, me semble-t-il, nous devons être indulgents à son localisme, parce que les circonstances historiques et biographiques que je viens d'évoquer, certainement trop sommairement pour vous, éclaire son refus, tout à fait étonnant par ailleurs, de faire usage des concepts de droit et de juridiction dans le développement de son ecclésiologie eucharistique. Le père Ouzoline l'a fort bien souligné, naturellement le père Nicolas a été très influencé par la lecture de Zaume. Car le père Nicolas ne l'a pas dit, mais une des phrases essentielles et inspiratrices qu'il a trouvées dans Zaume, c'est quand même celle-ci, et qui me paraît vraiment franchement très juste et très profonde. Aus der Ordnung der eucharistischen Gottesdienst ist die Ordnung der Kirche hervorgegangen. C'est difficilement traduisible en français, mais je vais m'y essayer. C'est de la forme structurée de la célébration eucharistique qu'est née la constitution ou la structure ordonnée même de l'Église. Je crois que c'est très profond et très juste. Mais, comme le père Ouzoline l'a si bien souligné, il n'y a pas que ces profondeurs chez Zaume. Il y a aussi chez Zaume ce qu'il a appelé à juste titre un romantisme historiquement plus qu'improbable, et qu'il avouait avec clarté dans la première page de son grand traité qui comporte 701 pages sur le droit canonique. Il ouvre la première page en disant « Das Kirchenrecht steht mit dem Wesen der Kirche im Widerspruch ». Le droit canonique est en contradiction absolue avec l'essence de l'Église, et il déclare en conclusion, à la 700e page, la même chose, je cite, la nature même du droit canon est en contradiction avec la nature de l'Église. Donc, Zaume, comme le père Ouzoline l'a fort bien dit, mettra à profit l'érudition historique de ce romantique. Mais, pour lui, et c'est paradoxal, le droit était professeur de droit canonique quand même, et donc la juridiction sont des œuvres de législateurs humains et non d'autres statuts que de protéger de façon tout extérieure la vie intérieure de l'Église. Alors je ne sais pas, j'ai fait de mon mieux, hein, mais je ne sais pas si ce petit excursus biographique vous aura éclairé sur les racines du localisme d'Afanassiev. Je crois quand même que le métropolite Jean a raison de prendre ses distances, et c'est évidemment comme théologien catholique de son côté que je me rangerai. Lorsque, au synode romain, je vous l'ai dit, il déclare « Toute la vie de l'Église, sa parole et sa structure sont eucharistiques ». Le mot « structure » impliquant ici, naturellement, le dépassement du localisme. Je crois que ce dépassement permet, alors le père Oswin va dire que j'appartiens à l'enthousiasme eschatologique probablement, ou à l'impatience eschatologique, mais je crois que ce dépassement permet, au moins au plan de la pensée, et dans une espérance chevillée au corps, permet aux catholiques et aux orthodoxes qui perçoivent la portée de ce déplacement, d'envisager ensemble la compatibilité de principes entre une ecclésiologie eucharistique et une structure synodale, bien entendu, je souligne ce mot trois fois avant de prononcer le second mot, entre une ecclésiologie eucharistique et une structure synodale et primatiale de l'Église. Je crois que Jean Zizulas dit la chose de façon fort éclairante. Il dit ceci, ce qui liait de manière radicale, et il a raison de dire radical, car aucune ordination d'évêque ne se situe autrement. La charge de l'évêque avec le reste des communautés ecclésiologiques dans le monde, c'est le fait que l'évêque doit toujours, est toujours élu par son église locale, mais est toujours, se voit toujours imposer les mains au sein de l'assemblée eucharistique locale par les évêques des autres communautés eucharistiques voisines. Et je crois que cette intuition qui est empirique jusqu'à nos jours, dirait le père Ozoline, qui est empirique jusqu'à nos jours, je crois que c'est ça qui lie de manière radicale la charge de l'évêque. Et c'est un facteur fondamental de l'apparition de la conciliarité épiscopale. Par la suite, je crois, si nous y réfléchissions bien, communion eucharistique et synodalité se conditionnent mutuellement. C'est ce que dit le métropolite Jean, il dit, dans la tradition orthodoxe, il n'y a jamais eu, je crois qu'il a raison, mais vous savez mieux que moi, il n'y a jamais eu, il ne saurait y avoir de synode ou de concile sans un protos ou primus. Si donc la synodalité est de droit divin, ce qui n'est guère mis en doute, même pour ces synodes qui furent impériaux, mais guère mis en doute, si ce fait, je veux dire, si la synodalité donc est de droit divin, quelles que soient les formes historiques et les prises, la primauté existe du même droit. Ou plus exactement, je dirais, des primautés existent du même droit. Il y a ainsi une cohérence, je crois qu'on ne doit pas opposer, entre ecclésiologie eucharistique et primautés au pluriel. Et sans doute au singulier s'il y a un concile écuménique. Le métropolite Jean dit que beaucoup d'orthodoxes, mais je leur laisse la responsabilité, exagèrent le contraste entre le gouvernement synodal qui les caractérise et le plaidoyer catholique en faveur de la primauté papale. Ils pensent qu'au plan de la réflexion, la tradition offre déjà une conciliation qui est la règle d'or de la théologie de la primauté, c'est le fameux 34e canon des apôtres que je m'excuse de vous citer ici parce que vous savez tous par cœur, c'est-à-dire les évêques de chaque nation, chaque ethnos, doivent reconnaître leur protos comme leur képhalè. Ils ne doivent rien faire sans son assentiment, mais lui non plus ne doit rien faire sans l'assentiment de tous les autres. Ainsi, il règnera la concorde et Dieu sera glorifié par le Christ dans le Saint-Esprit. Je crois que cette référence à la Trinité montre que ces dispositions canoniques ne sont pas seulement d'ordre administratif. Et là, il y a une question de sensibilité aussi. Je n'oserais pas dire et mettre le droit canon dans l'enfer des réalités séculières. Le droit canon peut, je ne dis pas est, mais peut et doit aussi être l'expression et de notre foi et de notre vie chrétienne. Je crois que c'est... Si la Trinité est l'unité entre 1 et 3, ça veut dire que l'unité entre un, tous et quelques-uns, entre les différentes églises dans leur diversité, doit se modeler sur cette unité première. J'en arrive un peu à ma conclusion, je ne sais pas combien de temps j'ai perdu.
Conclure.
Il faut combien de minutes si je gérais ?
5 minutes.
5, très bien. Vos estomacs crient famine. Enfin, il y a des fins spirituelles aussi. Je crois que l'idée d'un primat universel, je n'aime pas ce mot-là, qui est très peu présent à Vatican II, Ecclesia Universalis est beaucoup plus rare que Ecclesia Universa, c'est-à-dire l'ensemble de l'Église. Mais s'il y avait un primat pour l'Église entière, je crois que nous pouvons y réfléchir de la façon suivante. Dans l'Église orthodoxe, il n'y a jamais eu de synode sans primat. Oui, je le cite. Vous connaissez des exemples de synodes sans président ?
Président, c'est la présidence, mais ce n'est pas un terrestre, ça. C'est pour ça que le père Nicolas avait raison de mettre en doute cette chose, identification de la Pentecôte avec la Pentecôte avec l'Eucharistie, excusez-moi.
Et ici, ce qui est. Non, vous avez tout à fait raison d'intervenir, parce que ça me permet de clarifier mon point. C'est que précisément, le métropolite Jean ne trouve aucun fondement à la primauté dans le Nouveau Testament, la primauté de Pierre dans le Nouveau Testament. Et par conséquent, le raisonnement que je suis en train de faire est d'autant plus important que le métropolite Jean met de côté cette idée. Et il a un tout autre raisonnement, c'est-à-dire que si la nécessité d'une synodalité, une nécessité ecclésiologique, c'est-à-dire dogmatique, je répète son raisonnement, qui n'est pas néo-testamentaire du tout, rien à voir avec Pierre à la Pentecôte et une première Eucharistie à la Pentecôte, mais si la synodalité est une nécessité ecclésiologique, c'est-à-dire dogmatique, il en va de même de la primauté. Le fait que tous les synodes aient un primat de nécessité ecclésiologique signifie que les conciles œcuméniques doivent aussi avoir un primus, ce qui implique automatiquement une primauté dans l'Église entière. La logique de la synodalité conduit à la primauté et la logique des conciles œcuméniques à une primauté dans l'Église entière. Alors, une fois qu'on a dit ça, on prend évidemment peur, car c'est dire, alors, nos frères catholiques, ils réclament pour eux Vatican I. Bien, je crois que, je vais faire bref, puis c'est la conclusion, et je vais utiliser un argument d'autorité qui, comme chacun sait, est le plus faible en théologie, mais un argument d'autorité quand même. Le théologien qui est actuellement le pape a écrit quand même ceci, et je pense qu'il est beaucoup plus représentatif de la théologie catholique que moi-même. Vous me le concéderez. Qu'il n'y a aucune trace qu'il ait renié ce qu'il a écrit. Il écrit ceci, comme dans un livre de 83, quand il est cardinal au Saint-Office, et qui donne des matériaux pour la théologie catholique, donc qui dans son esprit fait autorité à l'époque. Comment doit penser un théologien catholique ? Je cite ici, guillemets, « Le théologien catholique ne peut absolument pas... » L'adverbe est incroyable sous sa plume, surtout s'il suit. Le théologien catholique ne peut absolument pas considérer la manière dont se présente la primauté au XIXe siècle, 1870, et XXe siècle, comme étant la seule possible et qui s'imposerait à tous les chrétiens. il y a donc peut-être, comme le père Zolli le disait, quelquefois du nouveau. Pas seulement quand on fait une thèse, mais il y a du nouveau dans la vie de l'Église. Quelqu'un devient pape qui est persuadé, intellectuellement persuadé, théologiquement persuadé, que la théologie catholique ne peut absolument pas considérer la manière dont se présente la primauté au XIXe et au XXe siècle comme étant la seule possible et qui s'imposerait à tous les chrétiens. Le travail que nous avons à faire chez nous, catholiques, est absolument considérable parce que ça, c'est la doctrine. La pratique empirique en est évidemment fort loin et très loin. Et je n'ai pas besoin de vous l'illustrer, elle vous est familière, peut-être même quelquefois en souffrez-vous, en tout cas personnellement j'en souffre. Pendant le pontificat de Jean-Paul II, il y a eu une régression évidente par rapport à ce que représentait le thème de la collégialité. Mais il me faut conclure, parce que l'estomac crie famine, et un orateur abusif est abusif. D'un seul mot, pour rendre hommage, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, au Père Athanasiel, si la plupart des théologiens catholiques, et peut-être un théologien catholique éminent même, comme Ratzinger, ont une conscience doctrinale plus juste et plus aiguë aujourd'hui, en matière d'éclatures eucharistiques, ils le doivent à des théologiens comme Athanasiev et Zizulas. Athanasiev n'a pas hésité à écrire que l'Eucharistie est le principal lien entre les catholiques et les orthodoxes, pierre d'achoppement, je l'ai entendu. Je veux espérer seulement que notre pratique eucharistique corrigera notre pratique ecclésiologique. Le père Nicolas a cru que cela serait possible pour avoir contribué, et comment, à raviver cette espérance. Je lui suis infiniment reconnaissant, et tant d'autres avec moi. Merci de votre attention.
Cher père, d'avoir montré finalement la contribution d'Institut Saint-Serge à travers Athanasiev au Concile Vatican II, qui a permis finalement que ce dialogue qui s'était plus ou moins arrêté au Concile de Florence ait pu reprendre au XXe siècle et que véritablement ce dialogue puisse continuer aujourd'hui. Les estomacs crient famine. Il y a peut-être la place pour une question, mais le père Nicolas, qui a été souvent cité dans l'exposé du père Legrand, demande la parole. Mais on pourra revenir tout à l'heure dans les discussions qui vont suivre les autres exposés.
C'est juste pour répondre à la question que vous m'avez posée il y a quelques minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire de la présidence des conciles? Alors, pour les conciles faits constantiniens, on sait que tout ça reste un peu vague, mais vous savez mieux que moi que en ce qui concerne les conciles œcuméniques qui sont reconnus par l'Église orthodoxe, les papes n'y étaient jamais, ils envoyaient des légats. La présidence effective du point de vue de l'organisation, même de la convocation et le renvoi, et toutes sortes de mesures dont on ne va pas parler maintenant, c'est l'empereur et son appareil administratif. Et tout le reste, eh bien, c'est les évêques présents grâce, comme dit le père Nicolas, n'est-ce pas, inspirés du Saint-Esprit, ont trouvé des formes qui ne se référaient, je peux dire, en lien à la question décisive d'une présidence du Concile d'Orléans.
Merci de cette précision qui, effectivement, a pour elle la justesse historique.
Dans notre contexte, oui, je pose un peu comme ça.
Bien naturellement, je vous en donne acte. Simplement, je voudrais dire que, ayant lu et Zaume et Athanasiev, il est extrêmement important de voir par quel processus se faisait la réception des conciles. Parce qu'il ne suffit pas que les conciles parlent juste. Il faut encore qu'il soit reçu effectivement par les églises. Et ce processus, pendant tout le premier millénaire, est un processus où les primats jouent un rôle essentiel, et c'est évidemment une institution que l'on peut dire de l'Église d'Empire, mais Rome en faisait partie à tous égards, à savoir que la plupart des questions sont résolues lorsque les cinq patriarches, au moins pendant deux, trois siècles, sont d'accord sur ce point.
Dans la réception.
Dans la réception. Vous
avez posé la question de la présidence. Et donc je pense qu'il faut continuer à distinguer les deux
choses. Oui, mais la présidence veut dire, comme je l'ai connoté, parce que pour la discussion ultérieure, c'est important, la précision dans les termes, comme le doyen l'a dit. C'est-à-dire que présidence de premier, mais les présidences de premier sont aussi les présidences des patriarcats, pour prendre cette séquence très précise du dossier. Et je crois que ce sont des présidents à Antioche, à Jérusalem, à Alexandrie, à Rome, etc. Et s'il n'y a pas de consensus entre ces présidents, il n'y a pas de réception. Il y a un dernier point sur lequel je voudrais abusivement, mais c'est intéressant pour la suite. Quand vous dites, Père Ouzouline, comme vous l'avez dit avec force, l'impossibilité de considérer les positions dogmatiques de l'Église catholique sur la primauté, je vous concède cette impossibilité sans réserve, telle que la primauté fonctionne empiriquement, pas de problème, mais sur le fond, je voudrais dire deux choses. Il vaudrait la peine de relire Ratzinger, théologien. Alors, on ne va pas entrer dans la dispute sans intérêt, de savoir si le Ratzinger théologien, c'est le même que le pape va contredire ce qu'il a dit comme théologien. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Nous sommes ici entre théologiens, du point de vue théologique. Lorsqu'il dit qu'il est absolument impossible pour la théologie catholique de, ça montre que le statut de ce qu'on appelle dogmatique n'est pas le même chez vous et chez nous. Première remarque. Et deuxième remarque, je voulais citer quand même mon maître le père Congar, qui disait ceci, parce que c'est la cause des différences que vous avez trouvées partout. Et je voudrais vous rendre hommage, père Ouzouline. C'est vrai que tout est différent. C'est vrai, vous avez vraiment raison. Mais que disait Congar, auquel je n'arrive pas à donner tout à fait tort, il disait ceci, entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire l'Église catholique et l'Église orthodoxe d'aujourd'hui, il disait, tout est commun. Et tout est différent. Et cela même qui est différent, c'est cela qui est commun entre nous. Et je ne crois pas que ce soit une formule purement littéraire, rhétorique, mais ça on le laisse après le déjeuner.
Merci. On aura l'occasion après le déjeuner.